Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau débrief, encore à Aragon, deux week-ends de suite à Aragon avec Michel Turcot, notre envoyé spécial sur les Grands Prix. Michel, deux week-ends de suite à Aragon d'ailleurs, il y en a que ça a arrangé, d'autres pas. On pense aux Ducati qui n'ont pas franchement progressé. Par contre, les Suzuki qui étaient déjà bien le week-end dernier, pareil, ont réédité, les Yamaha. Alors justement, parlant de Yamaha, on va attaquer avec Franco Morbidelli qui a remporté ce Grand Prix. Écoute, je ne sais pas ce que tu en penses, Michel, mais Franco, moi, il m'a étonné. C'est vrai qu'il se qualifie en deuxième position, hein, il était dans les candidats au podium. Mais finalement, on parlait peut-être un peu moins de lui pour cette victoire. Et puis, comme à Misano, il est parti devant et il a imposé son rythme. Et puis, impossible à aller chercher, Franco.
Tu l'as dit, il était intouchable hier. Alors, Morbidelli a quand même gagné à Misano, donc ouais. Voilà, depuis le début de l'année, il est dans le coup. C'est vrai qu'il est pas mal irrégulier, mais qui ne l'est pas cette année. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'il pilote une Yamaha et jusqu'à présent, là, on n'avait pas trop vu des Yamaha à la fête, en tout cas à Aragon. Hein, on a vu Vinales qui avait été en difficulté, Fabio aussi. Donc c'était surprenant de voir une Yamaha dominer du premier au dernier tour. Sachant qu'il avait fait un choix de pneu arrière, comme Fabio d'ailleurs, les deux pilotes Petronas avaient choisi le pneu médium, alors que tous les autres étaient en pneu tendre, sauf je crois qu'il y avait Miller aussi et Bagnaia, les deux pilotes Ducati. Miller, il n'a pas eu le temps de voir si son choix était bon, puisqu'il était tombé entre le premier et le deuxième virage. Mais voilà, ouais, Franco, une super course, et assez étonnant quand il en parle à la fin. Il a parlé de Sénat, il a parlé de son état de grâce. Il disait qu'il avait fait un peu comme un trip, quoi, comme s'il était un peu sous l'emprise de la drogue.
D'accord.
Et, il a fait 23 tours et à l'arrivée, il dit qu'il avait l'impression que la course avait duré 2 tours tellement il est resté concentré dans son. Il était vraiment dans son truc, quoi, un peu habité. Et en tout cas, ouais, incroyable, hein, parce que surtout avec les deux Suzuki derrière lui, on imaginait.
Ouais.
Surtout que Rins, pour une fois, qui est bien qualifié et qui part devant, là, on se dit, bon, il a gagné la semaine dernière en partant, en remontant comme une fusée, là, on se dit, il est devant, il va faire qu'une bouchée de Morbidelli. Et ben non, il a jamais réussi à l'attaquer. D'ailleurs, il a été le premier à dire bravo Franco. Je pouvais le suivre à peu près, mais c'était impossible d'essayer d'imaginer aller l'attaquer. Et en plus, en fin de course, avec une gomme qui s'est plus qui s'est dégradée davantage que celle de Franco, il n'y avait rien à faire. Donc, chapeau Morbido.
Et d'ailleurs, Franco qui en profite pour recoller un petit peu au championnat, à moins de 25 points, je crois. Il n'est pas écarté de la course au titre, finalement, Morbidelli.
Non, il reste 3 courses. Donc, 3 courses et 75 points à prendre. Et quand on voit les montagnes russes. D'ailleurs, c'est marrant parce que samedi, en conf de presse, il y a un Matt Oxley, un journaliste anglais, qui lui a demandé s'il était prêt à filer un coup de main à Fabio dans la quête du titre. Il a un peu répondu en l'envoyant un peu sur les roses en disant « Mais pourquoi je ne vois pas pourquoi j'aiderais Fabio ? Parce que j'ai encore mes chances pour le titre si je gagne la course demain. Bon, » c'est une chose qu'il a faite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a sur le papier, on a mathématiquement, encore, je sais pas, on doit avoir 7 ou 8 pilotes qui doivent pouvoir jouer le titre. Mathématiquement, bien évidemment. Après, concrètement, on peut penser qu'entre Mir, Quartararo, je reste persuadé que ça va se jouer entre Mir et Quartararo. Mais peut-être que je me trompe. En tout cas, Morbidelli, oui, il peut encore croire en lui. Et même Dovi. Alors Dovi, ça va être plus compliqué, étant donné qu'on a 2 courses à Valence, où ça va être difficile encore pour lui. Donc. Moi je dis, si on doit parler du titre, pour moi ça reste une affaire quand même entre Mir et Quartararo.
Alors, Quartararo, t'en parles, une course encore compliquée de Fabio, d'autant que voilà, son coéquipier gagne, tu le dis, ils ont fait le même choix de pneus, t'as pu discuter un peu avec Fabio, comment t'expliques cette contre-performance à machine égale
Bah, difficile à expliquer parce que même lui, il n'a pas d'explication. La première course, la semaine dernière, il a un problème. Enfin, là, il y a un vrai problème qui est identifié. C'est un problème de pneu avant qui monte en pression. Voilà, il arrive plus à prendre des virages correctement. Donc, il dégringole dans le classement parce qu'il résout pas. Il n'arrive pas à faire redescendre la température et la pression de son pneu. Ce problème, a priori, c'était une pression initiale qui était trop élevée. En tout cas, hier, il n'a pas eu ce problème-là. Par contre, il n'était pas dans le coup. Alors, il fait huitième, c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup mieux que la dernière fois où il ne rentre pas dans les points. Mais voilà, il a subi, il s'est quand même battu jusqu'à la fin pour sauvegarder cette huitième place. Mais il a subi tout le long et il pensait après le warm-up avoir trouvé des petites choses sur la moto pour améliorer le comportement général, mais ça n'a pas fonctionné. On a vu qu'aux essais, le premier jour, ils ont essayé vraiment des trucs un peu dans tous les sens, comme si vraiment en étant perdu, et ils n'ont jamais rien trouvé, quoi. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, mais tu es un coéquipier, ils ont accès aux mêmes réglages, pourquoi tu n'as pas utilisé les réglages de Morbidelli? Alors, bon, il faut déjà savoir que les motos ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque Morbidelli, il a quand même un cran d'évolution en dessous. Et ensuite, ils n'ont quand même pas non plus le même pilotage. C'est vrai que Fabio est un peu plus agressif que ne l'est Franco. Donc, ceci explique cela. Ils n'ont jamais roulé avec les mêmes réglages. Donc là, c'était encore moins possible. Mais donc, voilà, ben, Aragon, ce n'est pas le circuit de Quartararo. Ça n'avait pas été le cas l'an dernier. Et là, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas du tout encore cette année, quoi.
Ouais, Fabio, il attend avec Valence avec impatience, j'imagine.
Alors,
Ouais, dis-nous.
ouais, on peut se dire effectivement qu'est-ce qu'on peut attendre. Enfin voilà, il y a 14 points d'écart entre les deux.
Ouais.
Si on se dit que ça va se jouer entre Mir et lui, qui est le favori? Alors, je vais dire que pour moi, ça reste Fabio, même s'il a 14 points de retard. Mir, il n'a pas gagné une course encore. Donc quelque part, la pression, elle est un peu sur lui. Lui, il n'a pas envie, il se dit, si je vais être champion, sans avoir gagné un Grand Prix, je vais être déjà que la saison, elle est un peu en bois, il se dit, je vais être un champion en carton. Donc il va vouloir tout faire pour gagner cette course. Là, il a été suffisamment intelligent pour pas faire n'importe quoi, il est resté sur 0 pour monter sur le podium. Mais on va se rapprocher de la fin, je pense qu'à un moment donné, il risque d'avoir une prise de risque un peu trop importante. Il est pilote d'usine aussi, c'est vrai que c'est de lui qu'on attend le résultat. Et puis bon, le circuit, alors Valence, Fabio l'an dernier, il termine deuxième à une seconde de Marquez. C'est encore un Grand Prix où il a vraiment été, il avait été très proche de
Ouais.
sa première victoire. Il sait que c'est un circuit où il est vite, où la Yamaha est vite, et il sait aussi que c'est un circuit où la Yamaha, avec ce fameux nouveau pneu arrière Michelin, fonctionne, puisque à Valence, en mois de novembre l'an dernier, donc on va se retrouver dans des conditions de piste identiques. Là, il avait super bien roulé avec ce pneu-là sur ce circuit-là. Donc, il est plutôt en confiance avant ces deux courses. Donc, par rapport à Mir, on peut dire qu'il a largement la place pour récupérer peut-être pas les 14 points d'un coup, mais en tout cas en reprendre quelques-uns. Et après, il y aura une finale à Portimao. Portimao, personne n'a jamais roulé. Et Fabio, pour lui, c'est un circuit qu'il adore parce que lui, il a couru en CEV. Bon, Mir aussi a dû y courir en CEV, je pense. En tout cas, Fabio a déjà roulé, pas en MotoGP, mais en Moto 3, et il dit que c'est un de mes circuits préférés. Donc, il est là aussi plutôt confiant. Donc, on peut espérer que sur ces trois courses, il refasse son retard. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a des choses un peu inexplicables qui laissent un peu planer le doute sur l'issue de la saison, quoi.
La Suzuki, selon toi, aujourd'hui, c'est la meilleure moto du plateau, la plus complète?
Bah, c'est ce que Fabio avait dit à Mir, et Mir lui a dit, bah, je savais pas que tu avais essayé ma moto. Donc, voilà, c'est une moto qui effectivement semble aujourd'hui, en tout cas, la plus homogène, celle qui travaille le mieux avec les pneus d'aujourd'hui, qui sont, on l'a dit, très sensibles en exploitation, hein, quelques grammes de pression de plus ou de moins, ça modifie totalement le comportement de la moto. Donc c'est la moto, en tout cas Aragon, qui semblait le plus équilibré, quoi. Est-ce que ça sera à Valence? On verra.
Ouais. Une moto qui a fait de belles choses aussi à Aragon ce week-end encore, c'est la Honda, en particulier aux essais. Un Nakagami qui fait la première pole d'un Japonais depuis Tamada en 2004. Et puis malheureusement, bah, les deux meilleurs Honda, Nakagami et Marquez, qui se mettent par terre en course. C'est une belle occasion manquée pour Honda de faire un nouveau podium. On s'attend à ce que ça soit beaucoup plus compliqué à Valence, par exemple, ou est-ce que toi tu penses qu'elle a vraiment franchi un cap au-delà du circuit à Aragon? Est-ce que c'est le circuit ou est-ce que la moto a progressé?
Après, l'an dernier, elle a gagné à Valence avec Marquez, hein, avec Marc. Donc là, la
Avec
moto,
Marquez.
Alex, elle venait de faire deux podiums. Donc je pense qu'il en voulait, il s'était mieux qualifié, il en voulait vraiment. Donc lui, il fait une petite faute en s'écartant. Voilà, il tombe. Nakagami aussi fait une faute alors qu'il était le favori aussi bien parce qu'il avait fait la pole que par rapport à son rythme de course qu'il avait eu tout au long des essais. On parlait tout à l'heure, tu me parlais des pilotes qui profitent ou pas de ce scénario de deux courses sur le même circuit. Bon, ça, c'est quand même quelque chose de nouveau, hein. C'est lié donc au
Ouais.
calendrier qu'on a eu cette année. On s'attend à chaque fois que le deuxième Grand Prix sur le même circuit, donc ça resserre les valeurs, ce qui a été le cas. On a vu que les Honda en ont profité aux essais, les KTM aussi. Les KTM, elles étaient larguées la semaine dernière. Là, elles étaient là. Donc finalement, il n'y a que les Ducati officiels qui ont pas progressé du tout, là. Par contre, ça, c'est vraiment inquiétant. Donc, enfin, pour en revenir à ta question, la Honda, je ne pense pas que la Honda a progressé, parce que la Honda, elle est ce qu'elle est depuis le départ. C'est juste qu'on a des pilotes qui en prennent mieux la mesure. Grosse déception pour Crutchlow, c'est vrai qu'on s'attend, quand on voit ce que feront aujourd'hui Nakagami et Alex Marquez, on aurait espéré que Cal, qui a quand même fait régulièrement des podiums ces dernières années, soit un peu plus performant. Alors là, il a mis ça sur le compte de son mauvais choix de pneus, des pneus teintes qui sont usés trop vite. Il a rapidement dégringolé. Je pense que lui aussi, le fait de savoir que l'année prochaine, il sera plus sur une Honda et on ne sait pas trop
Ouais.
s'il sera sur une Aprilia ou pas. Je pense qu'il est, en termes de mental, c'est un peu comme Dovi à mon sens, quoi. On a l'impression qu'ils sont quand même moins là tous les deux, quoi.
Ouais, Dovizioso, c'est vraiment dommage, hein. Il est encore dans le coup, potentiellement pour être titré, mais voilà, encore un week-end très compliqué à l'image de toutes les Ducati, toutes sauf une d'ailleurs, Johann Zarco. Superbe course de Johan. Alors avant que tu nous donnes ton sentiment sur cette course, moi j'ai quand même l'impression, tu me diras si je me trompe, mais une nouvelle fois, Johan, il arrive à être mieux que les autres Ducati sur certains circuits et moins bien. Il est un peu en décalage par rapport aux performances des autres Ducati. Est-ce que ça serait lié au fait qu'il a une GP19 ou est-ce que tout simplement il était plus fort que tout le monde à Aragon?
Bah, il a été plus fort que tout le monde, ça c'est sûr. Le résultat est là pour le prouver. Après, est-ce que sa moto, la GP19, s'accorde mieux avec le pneu? Est-ce que c'est lui et son équipe technique qui sont parvenus à trouver des choses? Est-ce que son pilotage aussi? On sait que Joan, naturellement, c'est quelqu'un qui aime garder de la vitesse enfin, qui aime, oui, garder de la vitesse en virage, même si la Ducati, elle s'y prête pas. On sait aussi que c'est ce que ce nouveau pneu demande. Donc voilà, après c'est difficile de faire le tri dans tout ça, quoi. En tout cas, oui, il s'est battu bout en bout. Il a longtemps cru au podium. Après, il savait que il avait fait le choix de partir avec des pneus tendres pour attaquer au départ et après de voir un peu de gérer la fin de course. C'est ce qu'il a fait au mieux, quoi. D'ailleurs, il a jamais rien lâché. D'ailleurs, Alex. Il s'est pas mal
Ouais.
bagarré avec Alex. Et Alex a fait la même erreur qu'avait fait Fabio à Misano quand il s'était bagarré avec Vinales qui voulait vraiment pas le laisser passer alors qu'il était un petit peu plus rapide. Et quand Fabio l'a doublé, il est tombé parce que les autres étaient partis et il s'est précipité. C'est un peu d'ailleurs la même erreur qu'a fait Marquez, je pense, qu'a fait hier. Mais en tout cas, ouais, Johan, il fait le boulot, quoi. Il a été combatif. Voilà. Et lui, il a bien. Alors. C'est typiquement l'un des pilotes qui profite à chaque fois de la deuxième course sur le même circuit parce qu'il découvre cette année cette Ducati. Donc ben voilà, il est tout le temps en train d'apprendre et d'améliorer son feeling et les réglages de cette moto. Donc lui, c'est clairement un pilote qui profite aujourd'hui de ce qu'est le calendrier MotoGP 2020.
Tu parlais d'Alex Marquez qui a buté un peu sur Johan. Il s'en est un peu plaint après la course. Hein. Il disait que voilà, il avait perdu beaucoup de temps avec Johan alors qu'il était plus rapide que lui. Peut-être à un moment de la course où stratégiquement, selon Marquez, hein, peut-être Johan aurait dû plutôt ne pas forcer, le laisser passer, essayer de prendre sa roue. On a vu en fin de course avec Oliveira qu'il n'a rien lâché, il l'a redoublé pour terminer devant lui. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est une belle attitude de Johan de jamais vouloir laisser passer un pilote, de le redoubler après, même si celui-ci a plus de vitesse que lui. Voilà, on a besoin de ce genre de pilote-là aussi en MotoGP, peut-être plus naturel. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, après il a joué sa carte. Après, c'est vrai que quand un pilote bute derrière un adversaire qui est quelque part moins rapide globalement, mais qui a une machine qui a des points forts, qui va être fort en vitesse de pointe, sur les freinages, quand tu es derrière, que tu galères à doubler, c'est vrai que c'est énervant. Tu parles à tous les pilotes IAM quand ils se retrouvent quand c'est derrière une Ducati, ça les rend fous. Et c'est vrai que clairement, Alex il devait être plus rapide sur la fin de course. Donc est-ce que Johan aurait dû ne pas répliquer tout de suite et se dire je vais rester derrière ou pas? Bon voilà, et lui il fait sa course, il aime la bagarre, effectivement, là il y a difficile. Enfin, on n'a pas à juger d'ailleurs de qui a tort ou qui a raison là-dedans, quoi.
Dans les commentaires, on nous parle d'Aprilia. On sait que Aleix Espargaró n'a pas pu terminer sa course. Il faisait une belle course, mais problème technique à la fin. Ouais, c'est une saison encore très compliquée pour Aprilia. Bon, là, on nous demande s'ils seront encore là l'an prochain. Oui, il n'y a pas de souci. Aprilia reste en MotoGP.
Oui, c'est pas prévu que Aprilia se retire du MotoGP. Après, voilà, c'est une équipe qui a pas les mêmes moyens. Et effectivement, ils ont beaucoup de problèmes de fiabilité cette année. Voilà, avec un seul pilote de pointe, on va dire, malgré tout le respect qu'on doit à Bradley Smith. Voilà, je pense qu'ils ne savent pas toujours pas si l'année prochaine, si on va avoir du Iannone, du Crutchlow, du Dovizioso. Enfin. Rien n'est très clair pour ce constructeur, mais bon, a priori, ils seront là, oui, l'année prochaine avec deux pilotes.
Alors, ça sort un peu de notre domaine de compétence, mais comment expliquer que ça traîne autant avec le TAS concernant Andrea Iannone? C'est vrai que quand la sanction est tombée la première fois, on s'attendait presque à avoir un verdict avant le début de la saison pour lui. Et maintenant, la prochaine échéance, c'est au mois de novembre, c'est ça? Est-ce que enfin, on va savoir cette fois-ci si Iannone, sa sanction est confirmée?
Oui, bah, de toute façon, oui, il y aura une réponse. Effectivement, le TAS a dit que le verdict serait prononcé d'ici la fin du mois de novembre. Donc, voilà, ils sauront à quoi s'en tenir à ce moment-là, quoi. Mais bon, pour l'instant, c'est des histoires d'avocats. Je t'avoue que je n'ai pas suivi ça de très près.
Ouais.
On verra.
On parle aussi d'Andrea Dovizioso en tant que pilote d'essai, pourquoi pas pour le HRC par exemple. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois Andrea continuer sa carrière en tant que pilote de développement?
Honnêtement, enfin, Andrea, c'est un pilote qui a toujours dit, voilà, moi j'ai d'autres choses dans ma vie que le MotoGP. On sait qu'il rêverait de courir en motocross, de monter une équipe, voilà, c'est ça, c'est sa vraie. Lui, il a toujours dit, ma vraie passion, c'est le motocross. Bon,
D'accord.
donc, enfin, quand il parle de sa vie d'après, moi, j'ai jamais eu l'impression qu'il donnait envie, qu'il laissait entendre qu'il resterait dans ce paddock. Après, est-ce que il se dit peut-être, ben, je vais faire d'autres choses et après tout. Si je peux continuer à gagner un peu d'argent, hein, en faisant un coup de moto de temps en temps, ça peut être sympa. J'en sais rien s'il a ça en tête. Il s'est mis dans une. Enfin, il s'est mis. Ducati l'a mis dans une situation un peu. Enfin, il s'est mis au pied du mur en s'offusquant de l'attitude de Ducati à son égard. Voilà, maintenant. En tout cas, en plus, les problèmes qu'il rencontre actuellement, ça. J'ai du mal à l'imaginer continuer quelque part en MotoGP l'année prochaine, mais en tout cas j'espère me tromper parce que c'est un pilote qui manquera s'il est plus là l'an prochain, c'est sûr.
Un petit point rumeur transfert à Vincia une semaine après. Ça s'amplifie un peu hein, l'arrivée d'un team VR46 à la place d'Avincia, ou je ne sais pas comment on peut le dire, avec Luca Marini et Bastianini.
Oui, ça s'amplifie. On sait que Sky doit arrêter son engagement en Moto 3. Voilà, on sait qu'il y a une volonté à moyen terme de monter une structure en MotoGP. On sait qu'Avintia a des problèmes financiers, que le team va être cédé rapidement. On sait que Tito Rabat ne veut plus parler, ne veut plus faire point presse. Donc, c'est qu'il doit sentir
Ouais.
que. On a déjà lui expliqué que l'année prochaine, malgré son contrat. Il faudrait qu'il aille faire autre chose. Alors peut-être qu'il va, on dit maintenant qu'il pourrait rester dans le milieu, faire du coach rider comme pas mal de pilotes le font aujourd'hui. Voilà, il n'y a rien d'effet, mais effectivement, il y a de fortes chances que Marini roule en MotoGP sur une Ducati avec Bastianini dans une équipe où il y aura certainement du bleu sur les carénages.
Bon, est-ce que on peut dire que c'est la fin de l'ère des pilotes payants en MotoGP?
Payant, ça veut dire quoi? C'est un gars qui arrive et qui a des sponsors et qui en fait profiter son équipe. Est-ce que c'est un pilote
Ouais.
payant ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que des pilotes. Je pense pas qu'il y ait un pilote sur le plateau qui ne mérite pas sa place. Donc après, est-ce
D'accord.
qu'on va considérer que Marini, c'est un pilote payant parce que c'est le frère de Valentino Rossi, qu'il a des sponsors qui sont prêts à le soutenir? Est-ce que c'est ça un pilote payant? Après, tout ça est un peu vague, quoi. Chacun, voilà, chacun peut interpréter ça à sa façon.
On va finir avec une petite anecdote qui a sans doute échappé à beaucoup de gens, mais encore une fois, on a eu un problème avec un tear-off. On se souvient de Jack Miller qui avait dû arrêter sa course dès le début à Misano à cause de ça. Et c'est arrivé également à Vietti en Moto3 ce week-end, en fin de course. Un tear-off qui s'est bloqué dans son radiateur et qui a fait perdre de la puissance à sa KTM. Il a pu terminer la course, mais c'est étonnant d'avoir ce problème-là coup sur coup. Et est-ce qu'il va falloir réfléchir à faire quelque chose pour ces tear-offs qui sont sur la piste?
Bah écoute, c'est vrai qu'on peut se poser la question de la pertinence de jeter des bouts de plastique aux quatre coins du circuit en permanence, quoi, enfin en permanence. Est-ce qu'on ne pourrait pas réglementer ça? Enfin après, voilà, quand tu as un tir-off. Alors souvent, les tir-offs, ils en jettent un premier, enfin ils en enlèvent un premier. Il y en a deux, hein, généralement. Donc on en enlève le premier quand on sort des stands. Donc ça, j'ai jamais trop compris pourquoi. Quand la
Oui.
visière est propre, il faut se séparer du premier tear-off. Après, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait dire voilà, ben, dans telle portion du circuit, vous avez le droit de jeter un tear-off, j'en sais rien. Mais c'est vrai que bon, c'est jamais arrivé, deux problèmes consécutifs ou presque. C'est assez étonnant, quoi. Mais bon, peut-être que certains vont proposer ça à la prochaine commission de sécurité, quoi. Je vous tiendrai au courant.
Bon, allez, on prend une dernière question dans les commentaires. Un petit mot sur Bagnaia. C'est vrai que depuis qu'il a signé son guidon, c'est compliqué. Alors, ça a été compliqué pour toutes les Ducati, mais c'est vrai que c'est encore un week-end catastrophique pour Bagnaia.
Bah oui, comme tous les pilotes Ducati, hein, hormis, on l'a dit, hormis Zarco, ça a été un week-end effectivement hyper compliqué. Il a jamais été dans le coup. Et là, en plus, il a eu un petit problème de moteur. Il dit que dans le deuxième tour, il a eu une perte de puissance. Et voilà, donc il s'est arrêté. Il a rien, pas montré grand-chose aux essais et en course, un problème technique. Donc voilà, Aragon, je pense que il ne sera pas un grand souvenir au pilote Ducati, quoi. Et on verra Valence ce qu'il peut faire, mais c'est vrai que c'est pas non plus un terrain qui a jamais été propice à ces motos, quoi.
Et ben on se retrouve justement à Valence pour faire le point. Trois courses restantes, fin de saison sous haute tension. Merci Michel. Et puis à bientôt
Merci à
pour
toi,
un
Alexis.
prochain débrief.
Ouais, ça va. À bientôt.
Ciao.
Ciao.